Bon, je crois qu'on peut maintenant commencer. Donc, je vais essayer de faire un tout petit rappel très très rapide de notre intérêt pour le bouddhisme. On a eu l'occasion d'en dire quelques mots comme ça en aparté. C'est une affaire relativement récente pour les Européens. Ça date à peu près de la fin du 19e siècle. On a commencé un peu à avoir des textes à peu près fiables. Et puis, petit à petit, il y a des voyageurs, il y a des géographes, il y a des gens qui ont restitué de plus en plus précisément les mœurs spectaculaires, si on peut dire, plutôt chez les Tibétains. Et puis, pour diverses raisons philosophiques, on s'est intéressé plus directement au bouddhisme. Et il faut toujours rappeler, malgré tout, même si ça heurte notre sentiment national, que ce sont les Américains, au tout début, à la fin des années 40, début 50, qui se sont très concrètement intéressés au bouddhisme, qui ont commencé un peu à le pratiquer. Et puis ensuite, au cours des années 60, dans ce mouvement, on pourrait dire, d'altérité, enfin d'intérêt pour d'autres cultures, d'autres sensibilités, ce mouvement est devenu un peu plus collectif. Et le lien est fait avec Stephen Batchelor. Je crois ne pas trop tordre la réalité en disant que, en quelque sorte, à la fin des années 60, vous êtes un de ceux qui a voulu sortir de sa condition, de sa vie, de la vie qui lui était proposée, qui lui était faite par avance en Angleterre, donc pour aller expérimenter le voyage en lui-même, le voyage physique, le voyage psychique, y compris par les drogues, et puis la volonté de connaître d'autres réalités et d'autres moyens d'atteindre d'autres dimensions de la réalité. Et c'est une des raisons qui ont fait que vous êtes dirigé en quelque sorte, de façon un peu magnétique, vers l'Inde et puis le bouddhisme en particulier. Voilà cette toute petite introduction faite. Alors ensuite, l'ouvrage actuel, Itinéraire d'un bouddhiste athée, est évidemment doublement intéressant parce que c'est la trajectoire, je le dis pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, la trajectoire à la fois de l'intérieur et de l'extérieur, ce qui est une sorte de pas de deux assez inhabituel, de quelqu'un qui nous dira s'il est encore, s'il a été bouddhiste. C'est à la fois de l'intérieur du bouddhisme et en même temps c'est une remise en question d'un certain nombre de, peut-être de religiosité du bouddhisme lui-même. Ce mouvement, on a aussi eu l'occasion d'en parler, a déjà eu lieu, c'est un peu la caractéristique du bouddhisme zen. Alors autant que je sache, sans me tromper, c'est le 11e ou 12e siècle, je crois, le bouddhisme zen, qui est aussi un rejet de tout l'appareillage religieux et puis de tout ce qui pourrait être un peu un intermédiaire entre soi et l'état de Bouddha. Et le bouddhisme zen, donc c'est déjà une réaction contre à la fois le côté ecclésiastique et puis tout cet appareillage trop lourd pour aller directement à l'essentiel. Bon, on est au 11e siècle, mais maintenant, 10 siècles plus tard. En lisant ce livre, on a donc cette expérience de quelqu'un qui a donc pratiqué, on va dire ça comme ça, le bouddhisme tibétain, et puis ensuite en Corée, le bouddhisme zen. Et puis qui ensuite, en quelque sorte, dans une certaine mesure, je pèse mes mots, a quitté ou a repoussé un certain nombre de notions du bouddhisme tout en conservant d'autres. Alors c'est un peu sur ces choix que je souhaiterais qu'on puisse un peu échanger. Dans un premier temps, vous revenez très souvent sur ce qui serait le Bouddha historique, donc le Bouddha pris dans son contexte. Et pour ce faire, vous utilisez ce qu'on pourrait appeler en quelque sorte un évangile, qui est le canon Pali, c'est-à-dire qui est un document qui retrace à la fois les circonstances très matérielles de la vie du Bouddha dans son contexte religieux, politique, économique. mais avec tous les échanges qui existent à l'intérieur de sa grande parenté. Donc, la première question que je vous poserai, c'est de savoir s'il y a, comment dire, quel lien il existe entre le Bouddha, ce qui serait le Bouddha historique, et le bouddhisme.
C'est une très bonne question. On pourrait en effet poser exactement la même question entre la relation entre le Jésus-Christ et le christianisme. À mon avis, le Bouddha était un penseur révolutionnaire en Inde de son époque. Il a rejeté beaucoup des croyances et les pratiques, pas simplement les pratiques religieuses, mais aussi les structures sociaux qui étaient soutenues par certaines croyances des brahmines de son époque. Et il a essayé effectivement d'ouvrir une autre voie de vivre, un autre mode de vie, qui a abandonné les croyances théistes, ça veut dire la croyance dans un Dieu, la croyance qu'il existe en nous-mêmes une sorte d'âme éternelle, le Atman. Il a rejeté tout ça et il a essayé de fondre un mouvement qu'on pourrait peut-être appeler plutôt humaniste, agnostique même sur certaines questions, et finalement athée, parce que le Bouddha c'était certainement un athéiste, quelqu'un qui ne croyait pas en Dieu et n'avait aucun besoin de remplacer Dieu par un autre concept d'une vérité ultime. Et je crois que ça, c'était très, très radical, surtout pour quelqu'un qui enseignait effectivement un ordre de moines et de nonnes. Et le bouddhisme, qui est développé après sa mort, en effet, a retourné vers beaucoup des concepts que le Bouddha a rejetés. Et je crois que finalement, après, disons, 3-4 siècles après sa mort, que ses enseignements sont transformés dans une autre religion indienne. L'aspect social, ses enseignements étaient effectivement oubliés. Et ça, c'est très clair aujourd'hui. Quand on va en Inde, on trouve toujours le système de caste, des brahmines, des marchands, des soldats, les travailleurs, qui existaient déjà à l'époque du Bouddha. Alors, et en même temps, le bouddhisme a disparu des Indes vers 11-12e siècle après Jésus-Christ. Alors, finalement, le bouddhisme était une faillite, un échec en Inde, mais il s'est répandu dans les siècles précédents vers la Chine, le Tibet, la Mongolie, le Japon, la Corée, l'Asie du Sud-Est, le Sri Lanka et tout ça. Et dans chaque pays différent, a évolué dans une façon très, comment on dit ça, une façon très proche aux besoins des gens de ces cultures-là. Et le bouddhisme, alors, est devenu très, très pluriel, très, très divers. Beaucoup d'écoles différentes qui ont fleurissé pendant des siècles en Asie. Et c'est seulement dans les derniers 50 ans, je dirais, que toutes ces écoles, ou presque toutes ces écoles, sont venues en Occident, aux États-Unis, mais ici en Europe aussi. Et pour la première fois dans l'histoire du bouddhisme, on a cette incroyable complexité d'écoles, d'enseignants, d'enseignements qui coexistent ici et maintenant dans une grande ville comme Bordeaux, à Paris et ailleurs.
Plus concrètement, peut-être la question qu'on peut se poser à la lecture du livre, c'est de savoir, je vais essayer de procéder un peu par méthode, disons, ce que vous avez en quelque sorte rejeté du bouddhisme ou que vous considérez comme presque étranger ou un bouddhisme originel. C'est un thème qui fait un peu polémique à propos de votre livre, c'est tout ce qui se rapporte à la notion de karma ou d'incarnation. Que me semble-t-il, il faudrait que je retrouve la citation, vous qualifiez de croyance. Et est-ce que vous pouvez redonner votre point de vue sur cette question-là ?
D'accord, ok. En effet, pendant mes études de bouddhisme, j'ai passé pas mal de temps en étudiant des textes Mahayana, les textes Theravada, les textes Zen, ça veut dire les textes qui viennent de toutes les différentes écoles. Et je me suis toujours dit, mais pourquoi est-ce qu'il y a des enseignements qui sont vraiment originels, qu'on ne trouve pas ailleurs que dans le bouddhisme, surtout beaucoup d'instructions sur la méditation, tout ça. Et au même temps, on trouve des idées religieuses, que je dirais des croyances, dans les choses qui sont finalement métaphysiques. Ça veut dire la doctrine du karma. Karma veut dire simplement l'action. Mais dans toutes les traditions indiennes, c'est ça existait avant l'ère du Bouddha. On croyait que chaque personne est la renaissance de quelqu'un qui existait dans une vie intérieure. Et ces vies intérieures, en effet, sont sans début. C'est un processus infini de réincarnation. Et au même temps, après la mort, on va continuer selon vos actes, ça veut dire selon les karmas qu'on a commis, d'être rené, soit dans la forme humaine, soit en tant qu'animal ou de fantôme ou de n'importe quoi. Et pour moi, toute cette cosmologie est effectivement quelque chose qui appartient de la culture indienne, évidemment, mais n'est pas, à mon avis, quelque chose d'essentiel à l'enseignement du Bouddha. C'est vrai que dans les textes, même dans le canon Pali, le Bouddha parle assez souvent des vies intérieures, les vies futures, la loi de karma et tout ça, mais pour moi, ces enseignements ne sont pas aussi importants ou centrales à sa compréhension de la vie que d'autres enseignements qu'on ne trouve pas, qu'on ne peut pas lier avec des croyances qui existaient déjà à son époque. En effet, la doctrine de la causalité, la doctrine de ce qu'on appelle en bouddhisme l'origination dépendante, une pratique de méditation qui se concerne avec l'ici et maintenant, méditation sur le corps, sur les sens, sur tout ce qu'on fait, l'expérience maintenant, l'enseignement sur les quatre nobles vérités qui sont en effet une sorte de paradigme pour mener une vie plus sage, plus compatissante, plus calme, et aussi quelque chose qui est assez important, c'est le fait que le Bouddha a mis beaucoup d'accent sur le fait que chaque personne, homme et femme également, should devenir beaucoup plus indépendant, beaucoup plus autonome dans la vie spirituelle, au lieu d'être de devenir dépendant des institutions, des pouvoirs ecclésiastiques. Mais Après avoir dit ça, je dois dire aussi que je crois dans le karma, mais simplement comme quelque chose d'assez évident. Ça veut dire que chaque fois qu'on dit quelque chose, chaque fois qu'on fait quelque chose à une autre personne, ça va donner les conséquences dans le futur, soit dans cette vie, qui le Bouddha a clairement reconnu, mais aussi après notre mort. Alors si je meurs demain, tous les actes que j'ai commis jusqu'à demain, en effet, continueront d'avoir les effets à travers mes artefacts, comme ces livres, par exemple, dans le monde qui continuera sans moi. Alors, je crois que le karma, finalement, c'est une doctrine de responsabilité morale au lieu d'être une croyance dans une sorte de destin qui est contrôlé par les éléments, les actes, les vies intérieures que je ne connaîtrai jamais.
Il y a une deuxième interrogation, c'est celle qui pourrait porter sur cette notion entre guillemets tantrique, c'est-à-dire de force ou d'énergie occulte qui serait plus ou moins maîtrisée, et sur laquelle très rapidement vous avez un doute, notamment un jour où il y a une rencontre avec le Dalai Lama, que vous racontez assez précisément, où il pleut, et si je retranscris bien la scène, un lama intervient pour faire cesser cette pluie, qui du reste cesse. Et vous êtes un peu dans un état relativement schizophrénique, c'est-à-dire qu'à la fois vous constatez bien la réalité de cette pluie qui a cessé et vous ne savez pas trop, au final, quoi en penser.
C'est vrai que j'ai pas mal de problèmes avec la magie et ces choses surnaturelles qu'on trouve certainement dans le bouddhisme tibétain, mais on le trouve aussi ailleurs. On le trouve partout en Inde, dans les pratiques, dans les cercles religieux. On les trouve aussi dans les autres pays bouddhistes, en Chine et au Thaïlande aussi. Mais je crois que pour moi, tout ça, c'est fascinant, évidemment, mais pour moi, ce n'est pas l'essentiel. Et en effet, ça peut très facilement devenir une sorte de sidetrack, on dirait en anglais. Ça veut dire un chemin qui est plus fascinant à suivre, mais si on suit un tel chemin, on se distrait un peu. On ne reste pas avec l'essentiel qui, pour moi, c'est ce dont on fait l'expérience maintenant. Et comment on peut se comporter, comprendre ce qui se passe ici et maintenant. C'est ça, je crois, qui est l'essentiel du bouddhisme. La magie, les gens qui volent dans l'air, tout ça, c'est quelque chose de la culture bouddhiste asiatique, mais a très peu à voir avec notre monde actuel. Il y a un très beau petit vers qu'on trouve dans les textes chinois qui dit, et je traduis pas littéralement, mais de mémoire, que le plus grand miracle n'est pas de voler dans le ciel. Le plus grand miracle n'est pas de marcher sur l'eau. Le plus grand miracle, c'est de marcher sur la terre. C'était un maître zen qui s'appelait Linzi, pas Linji, du 12e siècle. Et je crois que ce strophe-là va vraiment à ce qui est distinctif dans les enseignements du Bouddha historique aussi, ça veut dire de nous faire souvenir de ce que le vrai miracle de la vie n'est pas les actes magiques que peut-être certains lamas tibétains peuvent faire, Mais le vrai magie, c'est ce qui se passe maintenant.
Alors, ce que je voudrais faire, c'est juste lire des tout petits extraits du livre pour vous amener à aller un peu plus loin, peut-être, à les commenter. C'est dans le chapitre qui s'appelle « Des dieux et des démons », page 251. « Ce qui m'attire dans le bouddhisme n'est pas une explication plus convaincante de la nature de la réalité que celle proposée dans d'autres religions, mais une méthodologie susceptible de fonctionner face à un problème comme celui de la souffrance. » Donc, légitimement, on peut vous demander, alors, à ce moment-là, quelle est la particularité du bouddhisme vis-à-vis de cette question de la souffrance et même de la violence ou du mal
Ça, c'est une question très large, évidemment. En effet, j'ai écrit un autre livre qui n'est pas encore traduit en français, qui s'appelle en anglais « Living with the Devil »,« Vivre avec le démon », qui est un livre consacré totalement à ces questions-là. Qu'est-ce que c'est le mal dans le bouddhisme? Qu'est-ce que c'est le démon? Qu'est-ce que c'est le bon? Et tout ça. D'abord, il faut encore une fois, il faut encore une fois se rappeler que dans le bouddhisme, il n'y a pas de Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a pas un être divin qui a créé ce monde et qui nous a plongé dedans face aux difficultés, qu'il faut faire quelque chose de plus sage qui remonte en effet à des croyances théistes. Mais les enseignements de Bouddha montrent que nous sommes en essence seuls dans ce monde, face à face à la souffrance. Et la chose la plus importante, en effet, est de devenir plus conscient de la façon dont on se comporte et on réagit vis-à-vis à la souffrance. Parce que la souffrance est normalement quelque chose qu'on n'aime pas du tout, qu'on ne veut pas. Et s'il y a des difficultés dans la vie, soit dans sa propre vie psychologique, soit dans la vie de famille, soit dans la vie sociale, de la culture, de la pauvreté, dans le tiers monde, on a instinctivement cette tendance de se reculer de ça, de se renfermer en soi-même, et de devenir en effet anesthésié par les choses qui se passent au monde. Alors pour moi, le pratique premier du bouddhisme, c'est de dire oui au monde, d'être capable d'embrasser, d'accepter, pas accepter simplement dans la tête, mais vraiment avec un rapport émotionnel, d'être capable d'embrasser ce monde dans sa totalité au lieu de le fuir. Et c'est là où on trouve, je crois, la puissance de la pratique de la méditation. C'est une discipline interne, ça c'est sûr, c'est quelque chose qui est assez simple, mais pas facile à faire, parce que la méditation va contre beaucoup de nos habitudes et tendances et pulsions habituelles. Et finalement, c'est très difficile des fois de résister la puissance de ces forces. Mais c'est là où on trouve en effet le turning point, je sais pas comment dire ça.
Le levier qui permet de faire bouger.
Oui, le point de transformation, disons, d'une vie qui est pour pas mal de sens une sorte de refus d'être ouvert au monde, au lieu d'une vie qui essaie de plus en plus d'embrasser ce qui se passe. Et c'est là, je crois, que le bouddhisme nous offre quelque chose pour nos propres vies qui est à la fois une philosophie et une pratique spirituelle. Ça veut dire quelque chose qu'on peut faire, quelque chose qu'on peut cultiver, pas seulement sur le coussin où deux fois par jour on fait un peu de zen, mais plus importante, dans chaque situation où on se trouve dans la vie. Et pour moi, la pratique de bouddhisme ne peut pas être comprise en tant qu'une forme de méditation solitaire, mais plutôt une façon de d'entrer dans une sorte de relation, de rapport avec le monde comme il est.
Il y a un troisième point sur lequel je voulais avoir votre expérience, d'autant que vous avez donc pratiqué le zen en Corée. Souvent dans les textes zen, il est question, c'est ce qui pourrait caractériser peut-être la radicalité du zen, il répète sans cesse que l'illumination, enfin il y a des mots différents, ou la réalisation peut être vécue dans cette vie-là, dans la vie même. Et pour autant, dans votre ouvrage, cette notion-là est, je ne peux pas dire différée, mais vous ne semblez pas attester que c'est vraiment quelque chose de possible ici et maintenant.
Ça dépend de ce qu'on veut dire par réalisation ou illumination. C'est vrai que dans le zen, il y a beaucoup d'importance, beaucoup d'accent émis sur la possibilité de devenir éveillé avec une sorte d'éclat, you would say, a sort of bang. Dans un moment spécial, normalement pendant qu'on fait la méditation. Je ne nie pas que ces expériences sont possibles, bien entendu, je crois que ça c'est assez évident, que ce n'est pas exclusivement le bouddhisme qui nous a donné des êtres, des hommes et des femmes, qui sont sages et illuminés dans un sens. Mais pour moi, je trouve, surtout suivant les récits qu'on trouve dans les textes pali, que le Bouddha a conçu l'idée de l'éveil ou de l'illumination, pas en tant qu'un état d'esprit privilégié, spécial, hors des normes, mais plutôt en tant qu'un processus, une sorte de voie, une voie de vivre, effectivement. Je ne veux pas citer les textes obscurs, mais pour simplifier peut-être un peu, l'illumination n'est pas une soudaine compréhension de la nature de la vérité. Je crois qu'en effet que le Bouddha ne s'intéressait pas énormément de ces questions de la vérité, et certainement pas la vérité soi-disant absolue ou ultime. Mais l'éveil, c'est plutôt le résultat d'avoir accompli certaines tâches, et pas simplement accompli les tâches, mais d'être toujours en train de pratiquer ces tâches. Pour moi, le bouddhisme peut être résumé dans quatre tâches. La première tâche, c'est d'embrasser le souffrance. Souffrance ne veut pas dire simplement les choses mauvaises, les choses mal, mais simplement c'est une sorte de code pour l'aspect tragique, disons, de la vie. Deuxième tâche, c'est de laisser tomber les attachements, les agrippements, le saisie surtout de soi qui est souvent provoqué par notre réaction vis-à-vis de souffrance. La troisième tâche, c'est de faire l'expérience pour lui-même des moments, des fois des moments qui durent pas mal du temps, des fois des moments très courts, d'un état d'esprit en nous-mêmes où ces pulsions ont pour le moment arrêté. Et c'est ça qu'on appelle en effet le nirvana. Le nirvana, ce n'est pas quelque chose, une sorte de ciel bouddhiste qui existera après la mort. Mais le nirvana est la possibilité d'agir différemment dans la vie de tous les jours. Une façon de répondre aux questions que la vie nous pose, mais répondre sans être conditionné par nos peurs, par nos haines et par nos attachements. Et cette expérience qu'on fait d'une sorte de calme, d'ouverture à l'intérieur de nous-mêmes, nous mène à la quatrième tâche, qui est la tâche de cultiver un chemin de la vie, un mode de vie. Alors, toutes ces quatre tâches sont liées à travers cette doctrine qui est très, très connue en Occident des quatre nobles vérités. Mais pour moi, ne sont pas essentiellement les vérités, mais plutôt les tâches, les choses à faire. Les choses qui peuvent vraiment changer notre expérience humaine dans une direction beaucoup plus créateur, beaucoup plus ouvert, et, en espérant aussi plus honnête et sage.
J'avais une dernière question avant que nous puissions dialoguer tous ensemble. Une question qui n'est pas une objection, mais disons une remarque. Dans le bouddhisme, autant que je sache, il est quand même question du devenir du monde, de sa transformation. Et vous mettez plutôt l'accent sur ce qui serait un peu le salut ou la morale individuelle dans votre livre. Et je voulais savoir un peu ce que si vous n'aviez pas aussi un peu abandonné ou mis de côté cette grande cosmologie, si on peut dire, des univers qui se succèdent, comme on le trouve donc dans le bouddhisme. Si, au final, ça sera une petite objection de ma part, vous n'avez pas un peu réduit ce bouddhisme à une sorte d'humanisme ?
Une sorte d'humanisme,
oui. Et auquel cas, est-il encore nécessaire pour vous, et pourquoi le serait-il, de vous référer au bouddhisme ?
C'est une bonne question, et une question qui est souvent posée par mes lecteurs, par mon public. Pour moi, cette cosmologie bouddhiste avec tous ces autres univers et ces grandes kalpas, les grandes périodes de temps, des milliers d'années, tout ça. Ça, c'est encore une fois une façon de voir le monde qu'on trouve en effet également dans l'hindouisme, dans le jainisme. Mais je crois qu'aujourd'hui, cette façon de penser est de plus en plus difficile pour les gens de nos jours de vraiment croire ou de prendre littéralement comme vrai. Mais par contre, je crois que le monde, l'univers qu'on peut comprendre à travers les sciences naturelles, la cosmologie, l'astrophysique, aussi le quantum physique et tout ça, nous a révélé un monde qui est en effet beaucoup plus remarquable, je dirais, que l'univers qui est décrit dans les textes bouddhistes, soit si on va dans les recherches du cerveau, par exemple, et on comprend que ce cerveau n'est pas simplement de la matière dans la tête, mais quand on l'examine, on trouve qu'en effet, il y a autant de connexions neurales possibles dans ma tête et vos têtes que le nombre d'atomes dans l'univers. Et au même temps, quand on étudie un peu l'astronomie, cosmologie moderne, la vision du nombre de galaxies, d'univers même, qui est possible, est quelque chose complètement inconcevable. Pour moi, ça, c'est une vision du monde qui me rend dans un état d'âme que je dirais, que j'appellerais religieux. D'être ouvert à ça, être ouvert aux étoiles dans le ciel de la nuit. C'est difficile à imaginer quelque chose de plus remarquable que ça. Si, après la mort, on va continuer dans d'autres existences, je ne sais pas. Mais on a très, très peu d'évidence que cela sera le cas. C'est très difficile, je crois, que pour les gens modernes, de comprendre, pas croire, mais comprendre qu'est-ce que ça veut dire pour un être humain, après la mort, de continuer dans une autre vie. Ça, cette sorte de pensée est devenue de moins en moins crédible pour les gens de nos jours. Pourquoi donc je reste avec le bouddhisme? Parce que c'est d'être honnête vis-à-vis moi-même et les autres, que c'est la tradition dans laquelle je me trouve. Je trouve dans les enseignements, surtout les enseignements les plus anciens, une source d'inspiration, une complexe d'idées, de valeurs et de pratiques qui peuvent, je crois, constituer ou faire créer une culture, une société qui n'est pas basée, comme le nôtre, sur la consommation, sur la destruction des environnements, mais ça nous donne une vision d'une autre manière de mener nos vies sur cette planète. Je ne trouve pas une telle démarche dans l'humanisme. L'humanisme manque effectivement des pratiques, des disciplines spirituelles qu'on trouve dans le bouddhisme, qui pour moi sont vraiment de l'essentiel. Et au même temps, l'humanisme n'a pas cette même philosophie. J'ai oublié ce que j'allais dire. C'est pas grave, on arrête là.
Juste avant de vous réciter, juste avant de vous céder la parole aux personnes qui sont venues ici, je voulais lire un très beau passage que je viens de perdre. Et qui est un témoignage, voilà. Donc c'est le témoignage de Stephen Batchelor. Un soir au crépuscule, alors que je revenais à ma chambre le long d'un étroit sentier, à travers la forêt de pins, portant un seau en plastique bleu débordant d'eau que je venais de tirer d'une source proche, je m'immobilisais brusquement sous le coup de la montée d'une sensation irrésistible de pure étrangeté à toute chose. C'était comme si j'avais été soulevé au sommet de la crête d'une énorme vague qui s'élevait de l'océan de la vie elle-même, me laissant pour la première fois sous le choc du mystère de l'existence de la moindre chose plutôt que du néant. Comment peut-on ne pas être conscient de cela, me demandais-je? Comment peut-on passer sa vie sans réagir à cela? Comment n'ai-je pas remarqué cela jusqu'à présent? Je me souviens de m'être tenu immobile, tremblant et stupide, les larmes aux yeux. Puis je repris mon chemin avant la tombée de la nuit. Ce que je propose un peu brutalement, c'est peut-être de garder un petit moment pour les personnes qui voudraient, si vous en êtes d'accord, dédicacer.
Oui, je suis d'accord. Je n'ai pas de stylo, malheureusement. J'oublie toujours les choses essentielles.
Voilà.
Mais vous avez une merci.
Et je crois qu'on peut remercier, mais alors donc je ne connais pas le procédé.